Jules Verne, Robur le Conquérant. Chapitre 8. Où l'on verra que Robur se décide à répondre à l'importante question qui lui est posée. C'était dans une des cabines du roufle de l'arrière que Oncle Prudent et Phil Evans avaient trouvé deux excellentes couchettes, du linge et des habits de rechange en suffisante quantité, des manteaux et des couvertures de voyage. Un transatlantique ne leur eût point offert plus de confort. S'ils ne dormirent pas tout d'un somme, c'est qu'ils le voulurent bien, ou du moins que de très réelles inquiétudes les en empêchèrent. En quelle aventure étaient-ils embarqués? À quelle série d'expériences avaient-ils été invités? Inviti, si l'on permet ce rapprochement de mots français et latin. Comment l'affaire se terminerait-elle? Et au fond, que voulait l'ingénieur Robur? Il y avait là de quoi donner à réfléchir. Quant au valet Fricolin, il était logé à l'avant, dans une cabine contiguë à celle du maître coq de l'Albatros. Ce voisinage ne pouvait lui déplaire. Il aimait à frayer avec les grands de ce monde. Mais s'il finit par s'endormir, ce fut pour rêver de chutes successives, de projections à travers le vide, qui firent de son sommeil un abominable cauchemar. Et cependant, rien ne fut plus calme que cette pérégrination, au milieu d'une atmosphère dont les courants s'étaient apaisés avec le soir. En dehors du bruissement des ailes d'hélice, pas un bruit dans cette zone. Parfois un coup de sifflet, que lançaient quelques locomotives terrestres en courant les railroads, ou des hurlements d'animaux domestiques. Singulier instinct. Ces êtres terrestres sentaient la machine volante passer au-dessus d'eux et jetaient des cris d'épouvante à son passage. Le lendemain, 14 juin à 5 heures, Oncle Prudent et Phil Evans se promenaient sur la plateforme, on pourrait dire sur le pont de l'aéronef. Rien de changé depuis la veille, l'homme de garde à l'avant, le timonier à l'arrière. Pourquoi un homme de garde ? Y avait-il donc quelque choc à redouter avec un appareil de même sorte ? Non, évidemment. Robur n'avait pas encore trouvé d'imitateur. Quant à rencontrer quelque aérostat planant dans les airs, cette chance était tellement mince qu'il était permis de n'en point tenir compte. En tout cas, c'eût été tant pis pour l'aérostat. Le pot de fer et le pot de terre. L'albatros n'aurait rien eu à craindre d'une semblable collision. Mais enfin, pouvait-elle se produire ? Oui, il n'était pas impossible que l'aéronef se mît à la côte comme un navire. Si quelque montagne, qu'il n'eût pu tourner ou dépasser, eût barré sa route. C'étaient là les écueils de l'air, et il devait les éviter comme un bâtiment évite les écueils de la mer. L'ingénieur, il est vrai, avait donné la direction, ainsi que fait un capitaine, en tenant compte de l'altitude nécessaire pour dominer les hauts sommets du territoire. Or, comme l'aéronef ne devait pas tarder à planer sur un pays de montagne, il n'était que prudent de veiller, pour le cas où il aurait quelque peu dévié de sa route. En observant la contrée placée au-dessous d'eux, Oncle Prudent et Phil Evans aperçurent un vaste lac dont l'albatros allait atteindre la pointe inférieure vers le sud. Ils en conclurent que pendant la nuit, Érié avait été dépassé sur toute sa longueur. Donc, puisqu'il marchait plus directement à l'ouest, l'aéronef devait alors remonter l'extrémité du lac Michigan. Pas de doute possible, dit Phil Evans. Cet ensemble de toits à l'horizon, c'est Chicago. Il ne se trompait pas. C'était bien la cité vers laquelle rayonne 17 Railway, la reine de l'Ouest, le vaste réservoir dans lequel affluent les produits de l'Indiana, de l'Ohio, du Wisconsin, du Missouri, de toutes ces provinces qui forment la partie occidentale de l'Union. Oncle Prudent, armé d'une excellente lorgnette marine qu'il avait trouvée dans son roufle, reconnut aisément les principaux édifices de la ville. Son collègue put lui indiquer les églises, les édifices publics, les nombreux élévators ou greniers mécaniques, l'immense hôtel Sherman, semblable à un gros dé à jouer, dont les fenêtres figuraient des centaines de points sur chacune de ses faces. « Puisque c'est Chicago, dit Oncle Prudent, cela prouve que nous sommes emportés un peu plus à l'ouest qu'il ne conviendrait, pour revenir à notre point de départ. En effet, l'Albatros s'éloignait en droite ligne de la capitale de la Pennsylvanie. Mais si oncle Prudent eût voulu mettre Robure en demeure de les ramener vers l'est, il ne l'aurait pu en ce moment. Ce matin-là, l'ingénieur ne semblait pas pressé de quitter sa cabine, soit qu'il y fût occupé de quelques travaux, soit qu'il y dormît encore. Les deux collègues durent donc déjeuner sans l'avoir aperçu. La vitesse ne s'était pas modifiée depuis la veille. Étant donné la direction du vent qui soufflait de l'est, cette vitesse n'était pas gênante. Et comme le thermomètre ne baisse que d'un degré par 170 mètres d'élévation, la température était très supportable. Aussi, tout en réfléchissant, en causant, en attendant l'ingénieur, oncle Prudent et Phil Evans se promenaient-ils sous ce qu'on pourrait appeler la ramure des hélices, entraînés alors dans un mouvement giratoire tel que le rayonnement de leurs branches se fondait en un disque semi-diaphane. L'État d'Illinois fut ainsi franchi sur sa frontière septentrionale, en moins de 2 heures et demie. On passa au-dessus du Père des Eaux, le Mississippi, dont les steamboats à 2 étages ne paraissaient pas plus grands que des canots. Puis l'Albatros se lança sur l'Iowa, après avoir entrevu Iowa City vers 11 heures du matin. Quelques chaînes de collines, des bluffs, serpentaient à travers ce territoire, en obliquant du sud au nord-ouest. Leur médiocre altitude n'exigea aucun relèvement de l'aéronef. D'ailleurs, ces bluffs ne devaient pas tarder à s'abaisser pour faire place aux larges plaines de l'Iowa, étendues sur toute sa partie occidentale et sur le Nebraska, prairie immense qui se développe jusqu'au pied des montagnes rocheuses. Ça et là, de nombreux rios, affluents ou sous-affluents du Missouri. Sur leurs rives, villes et villages, d'autant plus rares que l'Albatros s'avançait plus rapidement au-dessus du Far West. Rien de particulier ne se produisit pendant cette journée. Oncle Prudent et Phil Evans furent absolument livrés à eux-mêmes. C'est à peine s'ils aperçurent Fricolin, étendu à l'avant, fermant les yeux pour ne rien voir. Et cependant, il n'était pas en proie au vertige, comme on pourra le penser. Faute de repères, ce vertige n'aurait pu se manifester, ainsi qu'il arrive au sommet d'un édifice élevé. L'abîme n'attire pas quand on le domine de la nacelle d'un ballon ou de la plateforme d'un aéronef. Ou plutôt, ce n'est pas un abîme qui se creuse au-dessous de l'aéronaute. C'est l'horizon qui monte et l'entoure de toutes parts. À 2 heures, l'Albatros passait au-dessus d'Omaha, sur la frontière du Nebraska. Omaha City, véritable tête de ligne de ce chemin de fer du Pacifique. Longue traînée de rails de 1500 lieues, tracée entre New York et San Francisco. Un moment, on put voir les eaux jaunâtres du Missouri, puis la ville, aux maisons de bois et de briques, posées au centre de ce riche bassin, comme une boucle à la ceinture de fer qui serre l'Amérique du Nord à sa taille. Sans doute aussi, pendant que les passagers de l'aéronef observaient tous ces détails, les habitants d'Omaha devaient apercevoir l'étrange appareil. Mais leur étonnement à le voir planer dans les airs ne pouvait être plus grand que celui du président et du secrétaire du Weldon Institute de se trouver à son bord. En tout cas, c'était là un fait que les journaux de l'Union allaient commenter. Ce serait l'explication de l'étonnant phénomène dont le monde entier s'occupait et se préoccupait depuis quelque temps. 1 heure après, l'Albatros avait dépassé Omaha. Il fut alors constant qu'il se relevait vers l'est, en s'écartant de la Platte River, dont la vallée est suivie par le Pacific Railway à travers la prairie. Cela n'était pas pour satisfaire oncle Prudent et Phil Evans. « C'est donc sérieux, cet absurde projet de nous emmener aux antipodes, » dit l'un. « Et malgré nous, » répondit l'autre. « Ah, que ce Robure et prenne garde, je ne suis pas homme à le laisser faire. Ni moi, » répliqua Phil Evans. « Mais croyez-moi, oncle Prudent, tâchez de vous modérer. Me modérer ? Et gardez votre colère pour le moment où il sera opportun qu'elle éclate. » Vers 5 heures, après avoir franchi les montagnes noires, couvertes de sapins et de cèdres, l'Albatros volait au-dessus de ce territoire qu'on a justement appelé les mauvaises terres du Nebraska. Un chaos de collines, laissés tomber sur le sol et qui se seraient brisés dans leur chute. De loin, ces blocs prenaient les formes les plus fantaisistes. Çà et là, au milieu de cet énorme jeu d'osselets, on entrevoyait des ruines de cités du Moyen-Âge, avec forts, donjons, châteaux à mâchicoulis et à poivrières. Mais en réalité, ces mauvaises terres ne sont qu'un ossuaire immense, où blanchissent par myriades les débris de pachydermes, de chéloniens, et même, dit-on, d'hommes fossiles, entraînés par quelques cataclysmes inconnus des premiers âges. Lorsque le soir vint, tout ce bassin de la Plate River était dépassé. Maintenant, la plaine se développait jusqu'aux extrêmes limites d'un horizon très relevé par l'altitude de l'Albatros. Pendant la nuit, ce ne furent plus des sifflets aigus de locomotives, ni des sifflets graves de steamboat qui troublèrent le calme du firmament étoilé. De longs mugissements montaient parfois jusqu'à l'aéronef, alors plus rapproché du sol. C'étaient des troupeaux de bisons qui traversaient la prairie en quête de ruisseaux et de pâturages. Et quand ils se taisaient, le froissement des herbes sous leurs pieds produisait un sourd bruissement, semblable au rouleau d'une inondation, et très différent du frémissement continu des hélices. Puis, de temps à autre, un hurlement de loup, de renard ou de chat sauvage, un hurlement de coyote, ce Canis latrans, dont le nom est bien justifié par ses aboiements sonores. Et aussi des odeurs pénétrantes, la menthe, la sauge et l'absinthe, mêlées aux senteurs puissantes des conifères qui se propageaient à travers l'air pur de la nuit. Enfin, pour noter tous les bruits venus du sol, un sinistre aboiement, qui cette fois n'était pas celui des coyotes. C'était le cri du peau rouge, qu'un pionnier n'eût pu confondre avec le cri des fauves. Phil Evans quitta sa cabine. Peut-être ce jour-là se trouverait-il en face de l'ingénieur Robur. En tout cas, désireux de savoir pourquoi il n'avait pas paru la veille, il s'adressa au contremaître Tom Turner. Tom Turner, d'origine anglaise, âgé de 45 ans environ, large de buste, trapu de membres, charpenté en fer, avait une de ces têtes énormes et caractéristiques, à la Hogarth, telle que ce peintre de toutes les laideurs saxonnes en a tracé du bout de son pinceau. Si l'on veut bien examiner la planche 4 du Harlot's Progress, on y trouvera la tête de Tom Turner, sur les épaules du gardien de la prison, et on reconnaîtra que sa physionomie n'a rien d'encourageant. « Aujourd'hui, verrons-nous l'ingénieur Robur ?» dit Phil Evans. « Je ne sais, » répondit Tom Turner. « Je ne vous demande pas s'il est sorti. Peut-être. Ni quand il rentrera. Apparemment quand il aura fini ses courses. » Et là-dessus, Tom Turner rentra dans son roufle. Il fallut se contenter de cette réponse. D'autant moins rassurante que, vérification faite de la boussole, il fut constant que l'Albatros continuait à remonter dans le nord-ouest. Quel contraste alors, entre cet aride territoire des mauvaises terres, abandonné avec la nuit, et le paysage qui se déroulait actuellement à la surface du sol. L'aéronef, après avoir franchi 1000 kilomètres depuis Omaha, se trouvait au-dessus d'une contrée que Phil Evans ne pouvait reconnaître, par cette raison qu'il ne l'avait jamais visitée. Quelques forts, destinés à contenir les Indiens, couronnaient des bluffs de leur ligne géométrique, plutôt formés par des palissades que par des murs. Peu de villages, peu d'habitations, en ce pays si différent des territoires aurifères du Colorado, situés à plusieurs degrés au sud. Au loin commençait à se profiler, très confusément encore, une suite de crêtes que le soleil levant bordait d'un trait de feu. C'étaient les montagnes rocheuses. Tout d'abord, ce matin-là, oncle Prudent et Phil Evans furent saisis par un froid vif. Cet abaissement de la température n'était point dû à une modification du temps, et le soleil brillait d'un éclat superbe. « Cela doit tenir à l'élévation de l'Albatros dans l'atmosphère, » dit Phil Evans. En effet, le baromètre placé extérieurement à la porte du roufle central était tombé à 540 mm. Ce qui indiquait une élévation de 3000 mètres environ. L'aéronef se tenait donc à une assez grande altitude, nécessitée par les accidents du sol. D'ailleurs, une heure avant, il avait dû dépasser la hauteur de 4000 mètres, car derrière lui se dressaient des montagnes que couvrait une neige éternelle. Dans leur mémoire, rien ne pouvait rappeler à Oncle Prudent, ni à son compagnon, quel était ce pays. Pendant la nuit, l'Albatros avait pu faire des écarts, nord et sud, avec une vitesse excessive, et cela suffisait pour les dérouter. Toutefois, après avoir discuté diverses hypothèses plus ou moins plausibles, ils s'arrêtèrent à celle-ci. Ce territoire, encadré dans un cirque de montagnes, devait être celui qu'un acte du Congrès, en mars 1872, avait déclaré parc national des États-Unis. C'était en effet cette région si curieuse. Elle méritait bien le nom de parc. Un parc avec des montagnes pour collines, des lacs pour étangs, des rivières pour ruisseaux, des cirques pour labyrinthes, et pour jets d'eau, des geysers d'une merveilleuse puissance. En quelques minutes, l'Albatros se glissa au-dessus de la Yellowstone River, laissant le mont Stevenson sur la droite, et il aborda le grand lac qui porte le nom de ce cours d'eau. Quelle variété dans le tracé des rives de ce bassin, dont les plages, semées d'obsidiennes et de petits cristaux, réfléchissent le soleil par leurs milliers de facettes. Quel caprice dans la disposition des îles qui apparaissent à sa surface. Quel reflet d'azur projeté par ce gigantesque miroir. Et autour de ce lac, l'un des plus élevés du globe terrestre, quelle nuée de volatiles, pélicans, cygnes, mouettes, oies, barnaches et plongeons. Certaines portions de rives très escarpées sont revêtues d'une toison d'arbres verts, peints et mélèzes. Et du pied de ces escarpements jaillissent d'innombrables fumerolles blanches. C'est la vapeur qui s'échappe de ce sol, comme d'un énorme récipient, dans lequel l'eau est entretenue par les feux intérieurs à l'état d'ébullition permanente. Pour le maître Coq, c'eût été ou jamais le cas de faire une ample provision de truites, le seul poisson que les eaux du lac Yellowstone nourrissent par myriades. Mais l'Albatros se tint toujours à une telle hauteur que l'occasion ne se présenta pas d'entreprendre une pêche qui très certainement aurait été miraculeuse. Au surplus, en trois quarts d'heure, le lac fut franchi, et un peu plus loin, la région de ces geysers qui rivalisent avec les plus beaux de l'Islande. Penché au-dessus de la plateforme, Oncle Prudent et Phil Evans observaient les colonnes liquides qui s'élançaient, comme pour fournir à l'aéronef un élément nouveau. C'était l'éventail, dont les jets se disposent en lamelles rayonnantes. Le château fort, qui semble se défendre à coups de trombe. Le vieux fidèle, avec sa projection couronnée d'arc-en-ciel. Le géant, dont la poussée interne vomit un torrent vertical d'une circonférence de 20 pieds à plus de 200 pieds d'altitude. Ce spectacle incomparable, on peut dire unique au monde, Robur en connaissait sans doute toutes les merveilles, car il ne parut pas sur la plateforme. Était-ce donc pour le seul plaisir de ses hôtes qu'il avait lancé l'aéronef au-dessus de ce domaine national? Quoi qu'il en soit, il s'abstint de venir chercher leurs remerciements. Il ne se dérangea même pas pendant l'audacieuse traversée des montagnes rocheuses, que l'Albatros aborda vers 7 heures du matin. On sait que cette disposition orographique s'étend comme une énorme épine dorsale, depuis les reins jusqu'au cou de l'Amérique septentrionale, en prolongeant les Andes mexicaines. C'est un développement de 3500 km que domine le Peak James, et dont la cime atteint presque 12 000 pieds. Certainement, en multipliant ses coups d'ailes, comme un oiseau de haut vol, l'Albatros aurait pu franchir les cimes les plus élevées de cette chaîne, pour aller retomber d'un bond dans l'Oregon ou dans l'Utah. Mais la manœuvre ne fut même pas nécessaire. Des passes existent, qui permettent de traverser cette barrière sans en gravir la crête. Il y a plusieurs de ces canyons, sortes de cols, plus ou moins étroits, à travers lesquels on peut se glisser. Les uns tels que la passe Bridger, que prend le Railway du Pacifique, pour pénétrer sur le territoire des Mormons, les autres qui s'ouvrent plus au nord ou plus au sud. Ce fut à travers un de ces canyons que l'Albatros s'engagea, après avoir modéré sa vitesse, afin de ne point se heurter contre les parois du col. Le timonier, avec une sûreté de main que rendait plus efficace encore l'extrême sensibilité du gouvernail, le manœuvra comme il eût fait d'une embarcation de premier ordre dans un match du Royal Thames Club. Ce fut vraiment extraordinaire. Et quelque dépit qu'en ressentissent les deux ennemis du plus lourd que l'air, ils ne purent qu'être émerveillés de la perfection d'un tel engin de locomotion aérienne. En moins de 2 heures et demie, la grande chaîne fut traversée, et l'Albatros reprit sa première vitesse, à raison de 100 kilomètres. Il repiquait alors vers le sud-ouest, de manière à couper obliquement le territoire de l'Utah, en se rapprochant du sol. Il était même descendu à quelques centaines de mètres lorsque des coups de sifflet attirèrent l'attention d'Oncle Prudent et de Phil Evans. C'était un train du Pacific Railway qui se dirigeait vers la ville du Grand Lac Salé. En ce moment, obéissant à un ordre secrètement donné, l'Albatros s'abaissa encore, de manière à suivre le convoi lancé à toute vapeur. Il fut aussitôt aperçu. Quelques têtes se montrèrent aux portières des wagons. Puis, de nombreux voyageurs encombrèrent ces passerelles qui raccordent les cars américains. Quelques-uns même n'hésitèrent pas à grimper sur les impériales, afin de mieux voir cette machine volante. Rips et Hurra coururent à travers l'espace, mais ils n'eurent pas pour résultat de faire apparaître Robur. L'Albatros descendit encore, en modérant le jeu de ses hélices suspensives, et ralentit sa marche pour ne pas laisser en arrière le convoi qu'il eût pu si facilement distancer. Il voltait au-dessus comme un énorme scarabée, lui qui aurait pu être un gigantesque oiseau de proie. Il faisait des embardées à droite et à gauche, il s'élançait en avant, il revenait sur lui-même, et fièrement, il avait abordé son pavillon noir à soleil d'or, auquel le chef du train répondit en agitant l'étamine aux 37 étoiles de l'Union américaine. En vain, les deux prisonniers voulurent-ils profiter de l'occasion qui leur était offerte de faire connaître ce qu'ils étaient devenus. En vain, le président du Weldon Institute cria-t-il d'une voix forte « Je suis Oncle Prudent de Philadelphie !» Et le secrétaire « Je suis Phil Evans, son collègue !» Leurs cris se perdirent dans les milliers de hurrahs dont les voyageurs saluaient leur passage. Cependant, 3 ou 4 des gens de l'aéronef avaient paru sur la plateforme. Puis l'un d'eux, comme font les marins qui dépassent un navire moins rapide que le leur, tendit au train un bout de corde, façon ironique de lui offrir une remorque. L'Albatros reprit aussitôt sa marche habituelle, et en une demi-heure, il eut laissé en arrière cet express, dont la dernière vapeur ne tarda pas à disparaître. Vers 1 heure après-midi apparut un vaste disque qui renvoyait les rayons solaires, ainsi que l'eût fait un immense réflecteur. « Ce doit être la capitale des Mormons, Salt Lake City, » dit Oncle Prudent. C'était en effet la cité du Grand Lac Salé. Et ce disque, c'était le toit rond du tabernacle, où 10 000 saints peuvent tenir à l'aise. Comme un miroir convexe, il dispersait les rayons du soleil en toutes directions. Là s'étendait la grande cité, au pied des monts Wasatch, revêtue de cèdres et de pins jusqu'à mi-flanc, sur la rive de ce Jourdain qui déverse les eaux de l'Utah dans le Great Salt Lake. Sous l'aéronef se développait le damier que figure la plupart des villes américaines, damier dont on peut dire qu'il a plus de dames que de cases, puisque la polygamie est si en faveur chez les Mormons. Tout autour, un pays bien aménagé, bien cultivé, riche en textiles, dans lequel les troupeaux de moutons se comptent par milliers. Mais cet ensemble s'évanouit comme une ombre, et l'Albatros prit vers le sud-ouest une vitesse plus accélérée qui ne laissa pas d'être très sensible, puisqu'elle dépassait celle du vent. Bientôt l'aéronef s'envola au-dessus des régions du Nevada et de son territoire argentifère, que la Sierra Sol sépare des placés aurifères de la Californie. Décidément, dit Phil Evans. Nous devons nous attendre à voir San Francisco avant la nuit. Et après ? Répondit Oncle Prudent. Il était 6 heures du soir lorsque la Sierra Nevada fut franchie précisément par le col de Truckee, qui sert de passe au railway. Il ne restait plus que 300 kilomètres à parcourir pour atteindre, sinon San Francisco, du moins Sacramento, la capitale de l'État californien. Telle fut alors la rapidité imprimée à l'Albatros que, avant 8 heures, le dôme du Capitole pointait à l'horizon de l'ouest, pour apparaître bientôt à l'horizon opposé. En cet instant, Robur se montra sur la plateforme. Les deux collègues allèrent à lui. « Ingénieur Robur, » dit Oncle Prudent, « nous voilà aux confins de l'Amérique. Nous pensons que cette plaisanterie va cesser. »« Je ne plaisante jamais, » répondit Robur. Il fit un signe. L'Albatros s'abaissa rapidement vers le sol, mais en même temps il prit une telle vitesse qu'il fallut se réfugier dans les roufles. À peine la porte de leur cabine s'était-elle refermée sur les deux collègues. « Un peu plus je l'étranglais, » dit Oncle Prudent. « Il faudra tenter de fuir, » répondit Phil Evans. « Oui, coûte que coûte. » Un long murmure arriva alors jusqu'à eux. C'était le grondement de la mer, qui se brisait sur les roches du littoral. C'était l'océan Pacifique.